et appels sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, c'est la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. Rejoignez-nous pour commenter les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. La Libre Antenne, vous le savez, c'est aussi l'occasion de nous sensibiliser à des sujets dont on ne parle pas suffisamment selon vous. Vous êtes à ce moment même à l'étranger, parlez-nous de l'actualité dans votre pays. Bref, l'antenne vous appartient, vous choisissez le contenu de cette émission. 33 9 693 693 60 09 693 693 70. Si vous nous appelez de France, vous êtes nombreux ce matin à réagir à la mise en accusation de l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Je vous rappelle qu'hier, les députés de la transition l'ont accusé de haute trahison et d'attentat à la Constitution. Le dossier sera désormais transmis à la Haute Cour de justice. Bonjour Anatole.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Ouagadougou, comment avez-vous réagi donc à ces accusations?
Oui, la nouvelle est tombée hier et pour ma part j'ai été choqué parce que je trouve que le moment n'était plus opportun justement pour la transition, les organes de la transition d'engager ces procédures-là contre les dignités de l'ancien régime, surtout que nous venons de traverser une crise entre la RSP et une grande partie de l'armée et le premier ministre qui a failli faire basculer le pays dans le chaos il y a quelques semaines seulement. Ouais.
Le RSP étant le régiment de sécurité présidentielle qui exige depuis maintenant quasiment 3 semaines la démission du premier ministre. Il y a donc effectivement pour certains crise politique en ce moment au Burkina Faso. Quand vous dites que le moment est mal choisi, vous faites aussi référence, j'imagine, à l'approche de l'élection présidentielle puisque le scrutin est prévu dans 3 mois et c'est ce scrutin qui est censé mettre fin à la transition au Burkina Faso.
Oui, effectivement. Et si vous voyez la chronologie des faits, je pense que la transition est en train de dévier de sa mission principale. Parce que là, on assiste, je dirais, à des mécanismes pour écarter justement les anciens dignitaires du régime. Et si vous voyez un peu, cette décision intervient quelques jours seulement après l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, qui invalidait justement le code électoral qui empêchait justement les anciens dignitaires et tous ceux qui ont soutenu la modification de l'article 47 de se présenter aux élections. Ouais. Donc cette décision de la CNT peut être perçue justement comme un acharnement et c'est ça qui est vraiment dommage pour le peuple burkinabé.
Ouais, je rappelle qu'hier les députés ont également accusé de coups et blessures volontaires, assassinat et complicité de coups et blessures et d'assassinat tous les ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, tous les ministres qui se sont retrouvés autour de la table du Conseil des ministres le 21 octobre 2014. C'est une date importante évidemment dans l'histoire du Burkina Faso car c'est ce jour-là que le gouvernement a adopté le projet de révision de l'article 37 de la Constitution et c'est justement la volonté de modifier cet article qui est à l'origine des événements que nous connaissons tous. Anatole, ne raccrochez pas, Cheikh nous appelle lui aussi de la capitale du Burkina. Bonjour Cheikh.
Bonjour.
Vous souhaitiez également réagir à l'accusation de l'ex-président Blaise Compaoré.
Tout à fait.
Eh bien, on vous écoute.
En tout cas, pour moi, je suis pour et je trouve que c'est normal. Je suis désolé de ce que lui il dit là, parce que c'est vraiment formidable, parce que c'est la transition. Donc, du coup, le Burkina se retrouve être un no man's land où on a le droit, la justice n'a plus le droit d'exister. Et ça, c'est pas normal. Le président, tout le monde sait ce qu'il a commis. Donc c'est normal que, et moi d'ailleurs, je félicite ce président-là, Kafando, et son gouvernement, et tous les membres du CNT, parce que c'est l'organe la plus représentative aujourd'hui de la volonté populaire du Burkina Faso.
Le CNT, c'est le Conseil National de Transition qui fait office d'Assemblée Nationale en attendant les prochaines élections législatives au mois d'octobre. Je signale que 60 des 63 membres présents hier ont voté ces mises en accusation. C'est donc maintenant à la Haute Cour de Justice de se saisir du dossier. On a entendu ce matin sur notre antenne le chef de file du parti de l'opposition Unir PS, Benewende Sankara, qui se félicitait, qui applaudissait la décision des députés et qui attend maintenant que la Haute Cour de Justice se saisisse du dossier le plus rapidement possible. Puisque vous êtes là tous les deux, Cheikh et Anatole, on se souvient qu'il y a, si ma mémoire est bonne, 3 ans, une loi d'amnistie avait été votée par les députés du Burkina Faso, une loi qui amnistiait tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête du pays depuis l'indépendance en 1960, donc bénéficient de cette loi d'amnistie, 2 anciens présidents qui sont encore en vie, plus l'ancien président Blaise Compaoré. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de cette loi d'amnistie? Est-ce que vous pensez que Blaise Compaoré va user de cette loi pour ne pas répondre devant la justice? Anatole?
Blaise Compaoré user de cette loi, je ne pense pas. Je ne pense même pas qu'il aura l'occasion de le faire. Parce que, selon moi, les organes de la transition devraient justement revoir la question de l'amnistie. Et malheureusement, contrairement à ce que mon camarade et auditeur dit, je ne suis pas en train de dire que parce que c'est la transition, il ne faut pas qu'il y ait de la justice. Je dis qu'on a besoin que le peuple burkinabé se réconcilie avec lui-même. Et ce n'est pas en favorisant justement l'exclusion et en favorisant justement le sentiment d'acharnement que l'on va arriver à une justice. Ce que je dis ici, c'est que la justice ne doit pas être amnésique, c'est-à-dire intervenir à des moments clés.
Ouais.
Du processus électoral ou
ouais.
Du processus.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le calendrier est mal choisi pour formuler de telles accusations et qu'il aurait peut-être fallu le faire soit plus tôt, soit attendre que les autorités élues lors des élections d'octobre prochain puissent saisir la justice. Cheikh, en deux mots, vous attendez maintenant quoi, l'extradition de Blaise Compaoré?
Très clairement, oui. Nous sommes pour ça et il est temps qu'il réponde pour ses crimes. Parce que tous ces crimes ne peuvent pas passer de façon impunie. On a vu, et qu'est-ce qu'on fait de nos martyrs surtout? Et sans compter les journalistes assassinés comme Norbert Zongo et brûlés avec ses compagnons. Mais il est temps que quelqu'un dise à ce monsieur-là que trop, c'est trop. Obama a eu le courage de dire, on n'a pas besoin d'hommes forts, on a besoin d'institutions fortes. Donc aujourd'hui, notre justice, c'est une institution forte et on entend sûr de ça pleinement, quitte à ce qu'ils viennent pourrir à la Mako. C'est là sa place.
En tout cas, pour l'instant, il vit en exil en Côte d'Ivoire. Merci à tous les deux, Cheikh et Anatole, et on aura certainement l'occasion de prolonger ce débat la semaine prochaine. Bonjour Youssouf.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur l'antenne d'RFI. Vous êtes à N'Djamena, au Tchad, et vous réagissez à l'interdiction du port de la burqa dans votre pays après le double attentat suicide du mois dernier et l'attentat de samedi dernier au marché central de N'Djamena. C'est une décision que vous saluez, vous?
Oui, effectivement, la décision, elle est bonne, puisque les terroristes, ils se déguisent avec les burqas, ils se camouflent derrière les burqas pour faire les attentats. Donc la décision, au moment où le Premier ministre avait pris cette décision, elle est salutaire, elle est bonne, mais au moment où la décision a été prise, c'était d'une manière très brutale, quoi.
C'est-à-dire?
Donc ce qui a fait un peu choquer la population, certaines, donc ils savent très bien que l'impunité...
Mais excusez-moi Youssouf, quand vous dites que la décision a été très brutale, qu'entendez-vous par là?
Oui. C'est-à-dire, hein, au moment où le Premier ministre avait pris cette décision, il a directement décidé d'envoyer le service sécuritaire au marché, de ramasser tous les burqas et de brûler. Donc, en ces temps de la démocratie, il faut une institution forte, mais pas une dictate très forte. La manière dont il a dit d'aller chercher le burqa et puis brûler, ça ne demande pas vraiment l'air où on est là, dans ce monde de liberté. De
oui. Vous pensez que ça a choqué une partie de la population?
Effectivement, ce qui a fait la population, certaines populations jusqu'à là, ils n'ont pas encore accepté avec cette décision, puisque jusqu'à là, ils sont en train de porter le burqa.
Ah, il y a encore des personnes qui portent la burqa à Djamena, parce que depuis l'attentat kamikaze de samedi dernier, puisqu'effectivement, vous le disiez, le kamikaze était déguisé en femme, son visage était recouvert d'un voile intégral, alors que c'est interdit depuis la mi-juin de porter la burqa, et le gouvernement était très très clair après l'attentat de samedi. Il a dit, toute personne qui refuse de se soumettre à la loi sera automatiquement arrêtée et traduite devant la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui portent le voile et qui ne sont pas arrêtées.
Oui, effectivement, puisque la population, il y a des personnes qui voient, puisque la décision, où au moment le Premier ministre avait pris cette décision, il faut pas que les responsables militaires civils qui roulent avec les voitures teintées aussi. Cette décision aussi a été prise avec le burqa ensemble. Oui. Donc la population est en train de voir certaines personnes jusqu'à là roulent avec des véhicules teintés. Donc, et aussi, ils se disent pourquoi ces personnes se cachent derrière l'impunité pour rouler avec les voitures.
D'accord.
Nous aussi, on va porter le burqa.
Oui, oui, les vitres teintées sont interdites, effectivement, depuis la mi-juin à Djamena. Merci à vous, Youssouf, de nous avoir appelé. C'est la Libre Antenne, 33 9 693 693 70. On en parlait tout à l'heure en première partie d'émission avec Boniface Vignon, le dialogue national au Congo-Brazzaville. Bonjour Armel.
Bonjour Roanne, bonjour auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous nous appelez de la région parisienne. C'est aujourd'hui que se termine donc ce dialogue national convoqué par le président Denis Sassou Nguesso. L'opposition en tout cas a décidé de boycotter ce rendez-vous. Elle soupçonne le chef de l'État de vouloir modifier la constitution pour briguer un troisième mandat en 2016. Et vous dites, eh bien l'opposition a raison, elle a raison de ne pas avoir fait le déplacement.
Oui, 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 moi je soutiens tout à fait l'initiative de l'opposition parce que ce qui se passe à Sibiti, c'est une rencontre familiale, de la famille familiale au sens politique et au sens du sang. Donc ce qui se passe à Sibiti, ça ne concerne nullement le peuple congolais, c'est un non-événement.
Enfin, c'est un non-événement, c'est l'opposition qui décide de boycotter. Ce qui est quand même assez surprenant quand on sait que depuis des mois, l'opposition réclamait un dialogue national. Maintenant que le président congolais convoque ce dialogue national, elle décide de le boycotter. On a du mal à comprendre la stratégie de l'opposition.
Non, Juan, la stratégie elle est claire, c'est pas la stratégie de l'opposition, mais c'est la stratégie du peuple congolais. Monsieur Sassou dans son dialogue il a introduit deux points, la réforme des institutions et la gouvernance électorale. Mmh. Bon, l'opposition de son côté, il pense qu'il faut aller au dialogue pour juste la gouvernance électorale. En ce moment-là, on prend les points qui font consensus. Donc il y a un seul point qui fait consensus, c'est la gouvernance électorale. Et on devait donc retirer l'ordre du jour qui consistait à parler des réformes des institutions,
car c'est justement sur ce point des réformes des institutions que l'opposition est convaincue que le chef de l'État va s'en servir pour modifier la constitution et pour pouvoir à nouveau être candidat l'année prochaine. Ne raccrochez pas Armel, Aurélien lui nous appelle de Brazzaville, il est sur place, bonjour Aurélien.
Bonjour Anissi Aurélien, bonjour Juan Gomez.
Bienvenue sur notre antenne. Vous dénoncez justement la politique de la chaise vide de l'opposition.
Oui, mais je dénonce la politique la chaise vide de l'opposition. Et je ne suis pas seul, je pourrais dire une bonne partie de la population congolaise s'étonne justement de l'attitude de l'opposition. Bon, il faut s'arrimer aux standards internationaux. Il faut moderniser la politique. On voit sous d'autres cieux le pays pour lequel nous tirons souvent exemple en France. Il y a le débat de manière permanente sur toutes les questions, y compris politiques, sociaux et environnementaux, et j'en passe. Mais les mêmes qui hier avaient appelé à corps et à cri à ce dialogue, il faut aussi reconnaître que le parti majoritaire, parce qu'il a été majorité, il est passé par les élections, le Parti congolais du travail a fait d'énormes concessions pour accepter ce dialogue.
Oui. Aurélien, est-ce que le moment est opportun pour parler de l'avenir des institutions? On est tout de même à un an du scrutin présidentiel. Est-ce que c'est le moment, notamment, de se poser des questions sur faut-il, oui ou non, modifier la Constitution, revoir la Constitution? Puisque forcément, à partir du moment où on commence à parler de la Constitution, c'est la porte ouverte à de nombreux fantasmes.
En tout cas, Juan Gomez, tout à l'heure, je parlais des standards internationaux. Moi, je crois qu'il n'y a pas de moment opportun pour parler de l'avenir du pays. Vous savez très bien que au Congo, et notamment dans la plupart des pays au sud du Sahara, il y a des problèmes d'institutions. Ça, c'est connu, hein, sauf ceux qui font la politique avec la passion. C'est connu que ces pays ont énormément des problèmes d'institutions. Donc, notamment des problèmes d'équilibre des pouvoirs, d'équilibre et de régulation des pouvoirs. Bon, en ce moment-là, je vais aller très très vite.
Oui.
La plupart des Congolais, par exemple, pensent que le mandat du chef de l'État, qui était à 7 ans, il est très long. François Mitterrand disait que 7 ans, c'est toute une vie. Bon, il faut réduire à 5 ans, mais ça, ça passe par les institutions.
Bien sûr, mais pourquoi vouloir réviser le mandat, la durée du mandat du président à un an de la fin de son dernier mandat? Pourquoi ne pas laisser cette question à ceux qui seront élus au moment de l'élection présidentielle de l'année prochaine? Je rappelle que il y a deux points qui empêchent Denis Sassou Nguesso d'être candidat l'année prochaine. C'est d'abord son deuxième et dernier mandat, et c'est son âge, puisque la Constitution fixe à 70 ans l'âge limite pour être candidat, et que l'année prochaine il en aura 73 ans. On aura là aussi, c'est promis, puisque ça suscite beaucoup de réactions, l'occasion de revenir sur cette actualité. On dressera d'ailleurs, pourquoi pas, un bilan du dialogue national au Congo. Bonjour Firmin.
Bonjour Juan Gomez, bonjour auditeur de RFI.
Vous nous appelez d'Atlanta, vous êtes aux États-Unis, vous êtes centrafricain et vous souhaitiez justement réagir à la préparation de l'élection présidentielle dans votre pays, la Centrafrique, scrutin prévu le 18 octobre, et vous n'êtes pas content, vous, Firmin?
Ben oui, bien sûr, hein, je fais partie, pour juste préciser, d'une association de la diaspora, hein, centrafricaine d'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, association dénommée Itatimbi.
D'accord.
Et notre point de vue, notre prise de position par rapport à ces élections va plus loin que des simples problématiques de préparation. Nous trouvons que parler des élections actuellement en République centrafricaine d'ici la fin de l'année 2015 est tout simplement irréaliste. Et nous trouvons même que ce sont des élections du genre imposées ou bien forcées. Puisque la situation actuelle du pays ne peut en aucun cas garantir la tenue des élections libres et transparentes.
Il y a des problèmes de sécurité, le désarmement n'a pas encore commencé, désarmement des ex-rebelles, des différents mouvements armés. Effectivement, il y a un certain nombre de points qui sont en suspens aujourd'hui. Et on a vu aussi un certain nombre de réactions ces derniers jours, et notamment de l'ONU, qui s'inquiète que les réfugiés centrafricains ne pourront pas participer aux prochaines élections.
Eh bien là encore, vous venez de me prêter le terme, exactement. Nous savons un peu combien de personnes à peu près qui sont déplacées, qui ont en fuyant cette crise, et sans compter la diaspora elle-même qui s'est installée, cette population centrafricaine installée à l'étranger. Et nous parlons là de centaines de milliers de personnes.
Il y a 460 000 personnes réfugiées en ce moment installées au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo, qui sont des centrafricains qui ne pourront pas voter le jour du scrutin.
Mais là, il y a un problème qui se pose, parce que les autorités centrafricaines ont fixé à le seuil acceptable pour aller aux élections, alors que nous avons plus de 300 000 à l'extérieur. Et donc nous savons que qu'on parle de la diaspora, qu'on parle des députés,
oui,
peuvent.
On est en train de vous perdre. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de vous entendre pourquoi il est si important que la diaspora, puisque vous faites partie de la diaspora, puisse participer à cette élection présidentielle. Malheureusement, le réseau se dégrade entre Paris et Atlanta. En tout cas, merci d'écouter RFI en pleine nuit. Hein. Bon courage à vous si vous travaillez. On sera de retour lundi avec vos questions à la rédaction. Merci à tous de votre fidélité. On vous attend. Hein. Le standard reste ouvert. 33 9 693 693 70. Et puis en deuxième partie, nous lancerons le débat sur l'ouverture du procès d'Issénabré. Vous étiez quelques-uns ce matin à souhaiter d'ores et déjà prendre la parole, mais ne vous inquiétez pas, on vous rappellera lundi. Issénabré, l'ancien président tchadien, qui sera jugé donc à partir de lundi pour violation massive des droits de l'homme. C'est la première fois qu'un pays africain, en l'occurrence le Sénégal, va juger un ancien chef d'État pour crime contre l'humanité. On attend vos réactions. Bon week-end à tous et merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter cette émission. À lundi.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et paiement mobile.